Radio Kapi. Oh,
Kapi. Le journal. Billy Ivan Lutumba à la présentation.
Pour meurtre, torture, pillage, vol et viol, 84 militaires FARDC se retrouvent devant la barre dans le sud Kivu. Ils sont accusés d'avoir tué 9 personnes la semaine dernière à Kavumu et Miti dans le sud Kivu. Ils devront donner leurs moyens de défense. Nous vous en parlons en ouverture de ce journal. Les élèves de différentes écoles de Goma étaient aux abonnés absents ce matin, pourtant entendus dans certains établissements par leurs encadreurs. Les parents jugent la sécurité de leurs enfants peu rassurante. C'est aussi le cas des déplacés des sites de Boulengo et de 8e CEPA qui, malgré l'ultimatum des rebelles du M23 pour vider ces lieux, ne trouvent où aller faute des garanties pour des garanties sécuritaires. Vous suivrez en fin de cette édition notre invité qui est le coordonnateur national du projet Transforme depuis Mbujimayi. Alexis Mangala parle de l'appui de l'entrepreneuriat dans les secteurs productifs. Merci de votre fidélité sans parer à vous informer sur Radio Okapi et c'est une fierté pour nous. Bienvenue et excellente condition d'écoute à toutes et à tous. Amis à l'écoute, bonsoir à Kinshasa, il est 18h01. Début ce lundi du procès des 84 militaires FARDC présumés auteurs des tueries d'au moins 9 civils à Kavumu et Miti dans la nuit du 7 au 8 février. C'est ce qu'annonce l'auditorat militaire de Bukavu. Ces militaires sont aux arrêts et déférés à la prison centrale depuis hier dimanche par les services de sécurité de la province du Sud Kivu. Plus de détails avec Jean Kassami.
Les 84 militaires ont été appréhendés hier dimanche sur l'axe Mudaka, Miti, Kavumu, Kalehe, au nord de la ville de Bukavu, où ils venaient de commettre des exactions de toutes sortes, meurtres, tortures, pillages, vols et viols. Le Conseil de sécurité de la province a ordonné au commandant de la 33e région militaire, appuyé par le ministère provincial de l'Intérieur, de procéder à leur arrestation. L'opération s'est déroulée dans un climat de vive tension qui a ravivé la psychose au sein de la population déjà traumatisée. Le porte-parole de la 3e zone de défense, Major Nestor Mavulisa.
Ils sont appréhendés et doivent être jugés publiquement et sanctionnés pour qu'ils puissent servir d'exemple. L'indiscipline n'a plus de place dans les forces armées. Ceux qui vont marcher à l'encontre, où qu'ils soient, seront tous sanctionnés et déférés devant la justice. Sans la discipline, nous n'aurons pas une armée. Et pour cela, les brebis galeuses qui veulent ternir l'image de notre armée seront sanctionnées incessamment.
Le procès en flagrance se tient aujourd'hui à Bukavu, renseigne l'auditeur supérieur militaire garnison de Bukavu.
Nous vous faisons à présent le point sur la situation dans la ville de Goma et dans le Nord Kivu. La rentrée scolaire n'a pas eu lieu ce lundi 10 février dans cette ville de Goma, contrairement aux directives données par le responsable de l'enseignement formel du Nord Kivu. Si les enseignants et le personnel administratif étaient présents, les élèves ont manqué à l'appel. Les parents estiment que la situation sécuritaire dans la ville n'est pas encore suffisamment stable. Reportage de Rosalie Zawadi.
Dans plusieurs écoles de la ville, les élèves ont brillé par leur absence et ce, malgré la présence des enseignants et du personnel administratif. De nombreux parents estiment que la situation sécuritaire n'est pas suffisamment stable pour envoyer leurs enfants à l'école. Dans une école située dans la concession de la paroisse Notre-Dame d'Afrique, sur un effectif de plus de 800 élèves, seuls 5 étaient présents. Un peu plus loin, dans une école privée de la commune de Goma, aucun élève ne s'est présenté malgré la présence de tous les enseignants. Un inspecteur d'enseignement est passé sur place et a demandé aux enseignants de rentrer chez eux en annonçant une réunion au bureau du Proved dans la journée. Notons également que certaines écoles du quartier Mabanga Nord sont actuellement occupées par des familles des militaires qui habitaient les camps Katindo avant la chute de la ville, ce qui pose un autre problème d'organisation pour la reprise des cours dans ces écoles, s'inquiètent les parents. Les chefs des divisions de l'enseignement à Goma a promis de faire le point sur la situation dans les prochaines heures.
La peur, c'est aussi chez les déplacés des sites de Boulengo et de 8e CEPA appelés communément Kimachine ou qui ont 72 heures pour vider les camps. Ces sites situés à l'ouest de la ville hébergent un grand nombre de déplacés venus notamment des territoires de Massissi et de Calais dans le sud Kivu. L'ultimatum lancé hier dimanche par les rebelles du M23 expire demain mardi. Pour ces déplacés, ils ne savent où aller car la sécurité n'est pas du tout garantie dans leur lieu de retour. Denis Lukeso.
Au lendemain de l'ultimatum donné par les M23 aux déplacés de vider les camps, un mouvement timide de retour est observé ce lundi dans les sites de Boulengo notamment. Certaines sources confirment la démolition des abris par les occupants qui, par peur de cet ultimatum, détruisent eux-mêmes leurs maisons de fortune. Cependant, aucun moyen logistique accompagne ces mouvements, déplore ces retournés. Chaque déplacé se débrouille selon ses propres moyens. D'autres qui hésitent encore évoquent comme motif les zones de provenance pas du tout sécurisées et déclare avoir tout perdu. Rappelons qu'au lendemain de la prise de Goma, des mouvements spontanés de retour étaient déjà observés dans certains sites autour de Goma. C'est à cause des manques d'assistance, disaient ces déplacés, qu'ils ont préféré retourner chez eux. Il s'agit des déplacés venus essentiellement du territoire de Masisi.
À présent, quelques prises de position des quelques pays qui s'intéressent à la situation en RDC, notamment dans la partie est du pays. La Belgique demande au Rwanda de retirer ses troupes du territoire congolais et plaide pour des sanctions contre Kigali qu'elle qualifie d'agresseur. Cette position de la Belgique a été exprimée par le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, selon dit lors de son intervention devant le Parlement belge sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. D'autres détails avec Grassam Zati.
Alors que le groupe rebelle M23, soutenu par l'armée rwandaise, poursuit son offensive dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, la Belgique envisage de suspendre son aide au Rwanda pour exprimer son indignation face à la situation dans l'est de la RDC. Le ministre belge des Affaires étrangères, Maxime Prévost, réaffirme la position ferme de son gouvernement sur la responsabilité du Rwanda dans les soutiens au M23. On peut craindre effectivement que Goma ne soit pas la destination finale, avertit-il, rappelant que le cessez-le-feu proclamé par les groupes rebelles a été rapidement violé. La Belgique s'engage à plaider au sein de l'Union européenne pour des mesures fortes, parmi lesquelles la suspension du dialogue politique et sécuritaire avec Kigali, ainsi que l'arrêt du protocole d'entente sur les matières premières critiques entre l'Union européenne et le Rwanda. Toutefois, le ministre belge insiste sur le fait que la solution à la crise dans l'est de la RDC ne pourra être que diplomatique. Maxime Prévost souligne que toute décision des sanctions nécessite l'unanimité des pays européens, ce qui complique le processus. Tout en réaffirmant l'engagement de son pays en faveur de la RDC, le ministre belge insiste sur la nécessité d'une solution diplomatique à la crise et met en garde Kinshasa contre les recours aux milices locales pour faire face à l'insécurité.
Pour sa part, l'Afrique du Sud est solidaire du peuple congolais et de son aspiration à vivre en paix et en sécurité. Nous soutenons son droit de vivre à l'abri de toute force qui viole ses droits humains, puis ses ressources naturelles et terrorise ses communautés. Ces propos sont du président sud-africain Cyril Ramaphosa dans un message partagé sur le contexte de la présidence sud-africaine ce lundi. Il revient sur les retombées du sommet conjoint SADC et EAC. Pour lui, les résultats de ce sommet conjoint sont essentiellement des mesures de confiance en vue d'une paix durable. D'autres détails avec vous, Blaise Makassi.
Dans ce message, le président sud-africain réaffirme son engagement en faveur d'une solution diplomatique et politique qui donne la priorité à la stabilité de la RDC et des pays voisins et préserve la paix et le bien-être du peuple congolais. Cyril Ramaphosa, qui revenait du sommet de chefs d'État en Tanzanie sur les conflits dans l'est de la RDC, fait remarquer que les résultats de ces sommets constituent une lueur d'espoir pour l'est de la République démocratique du Congo en proie à des troubles. Il rappelle que son pays a toujours soutenu que la diplomatie était la solution la plus durable à ces conflits. Tout en participant à des missions de maintien de la paix, rappelle-t-il, l'Afrique du Sud prend une part active aux divers efforts diplomatiques visant à mettre fin aux conflits dans l'est de la RDC. Ces mesures de confiance conduiront finalement, selon le président sud-africain, au retrait des troupes de la SAMIDI-ARC. Ce sommet historique de l'EAC et de la SADC ouvre la voie à une paix durable dans l'est de la RDC, analyse Cyril Ramaphosa. Le sommet conjoint SADC-EAC a ordonné le cessez-le-feu immédiat et inconditionnel et la cessation des hostilités dans l'est de la République démocratique du Congo.
En plus bref, l'évêque du diocèse catholique de Butembo Beni appelle à mobilisation pour le don de bénévoles de sang face à l'augmentation du besoin en raison des violences qui sévissent dans le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri. Dans un communiqué pastoral du 8 février, Monseigneur Sikouli Paluku Melchisedek invite les membres de l'Église et les citoyens de bonne volonté à participer massivement à une campagne de collecte de sang pour sauver des vies. Il souligne qu'en raison de la guerre, des massacres et des déplacements massifs des populations, le besoin en sang est particulièrement élevé, notamment pour les enfants, les femmes en accouchement, les accidentés et les blessés de guerre. Chaque don bénévole de sang peut sauver plus d'une vie, précise le prélat catholique dans ce communiqué.
Nous allons à présent nous rendre en Ituri pour parler de ce groupe armé Codeco qui a attaqué dans la nuit le dimanche à Solondi le site des déplacés de Djaïba sur la route nationale numéro 27 ainsi que le village de Sandoukou 1 dans le territoire de Djougou. Le bilan provisoire est de 3 morts et 10 blessés dont la plupart sont dans un état critique, affirment des sources locales. Les dégâts ont été minimisés grâce à l'intervention des casques bleus de la MONUSCO. Des milliers de déplacés et certains habitants de Djaïba et Fataki sont concentrés autour de la base de la MONUSCO, comme nous le dit Isaac Remoyope.
Un groupe de miliciens de la Codeco a fait incursion vers minuit en tirant des coups de feu au site des déplacés de Djaïba à environ 90 km au nord de Bounia dans les territoires de Djougou. Alertés par les tirs nourris de ces hommes armés, les casques bleus de la MONUSCO se sont immédiatement déployés pour contenir ces violences. Ces miliciens ont fui après avoir tué des déplacés et blessé 10 autres. Ces derniers ont été acheminés aussitôt à l'hôpital de Drodo pour des soins. Parmi eux, certains sont dans un état critique et attendent d'être évacués à Bounia grâce à l'appui logistique de la MONUSCO. Une autre incursion de la Codeco a été signalée la nuit dernière à Sandoukou 1 où un homme a été tué et un autre pris en otage. Une psychose observe dans les milliers ou des milliers de déplacés et habitants de Fataki et Djaïba ont afflué aux alentours de la base de la MONUSCO à Djaïba. Les casques bleus ont intensifié les patrouilles dans la zone pour étouffer la menace de ces groupes armés et garantir la sécurité de la population. Une réunion conjointe FARDC MONUSCO s'est tenue ce lundi à Fataki en vue de renforcer les mécanismes de protection des civils. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Nous prenons à présent d'autres aspects et contours de l'actualité congolaise. Ici à Kinshasa, les travaux de réhabilitation des routes autour du marché central se poursuivent. Sur certaines comme Roi Kadingi, la réparation des caniveaux se poursuit. Sur d'autres telles qu'à Savoubou, on s'apprête à couler le béton sur certains tronçons. C'est en tout cas ce qu'affirme le directeur général de l'entreprise Safrimex qui exécute ces travaux. Il a dit au gouverneur de la ville lors d'une descente sur place ce week-end. Reportage Moudoumbi Benjamin.
Sur place, ce sont plusieurs chantiers qui sont en cours. Sur Kasavubu, les travaux de décapage, de réparation, de curage des caniveaux sont à la fin sur ces tronçons compris entre les avenues Roi Kadingi et Commerce. Sauf imprévu, c'est cette semaine que les structures métalliques seront posées pour enfin couler le béton. Hicham Soufan, directeur général de Safrimex, fait le point de chantier.
Les travaux qu'on a fait, c'était le curage des caniveaux. On a commencé par l'assainissement et on a tout terminé à les tronçons à partir du Commerce jusqu'à Roi Kadingi. Et on a même fait les décapages des chaussées. On a commencé même, comme vous avez vu sur le terrain, on a déjà attaqué les couches de fondation avec les concasseurs, les matériaux.
Après sa visite d'inspection sur place le week-end, le gouverneur Daniel Bumba s'est dit satisfait de l'avancée significative des travaux.
Aujourd'hui, il était question de visiter les chantiers. Maintenant, c'est l'exécution des travaux qui commence.
Des usagers de ces routes disent être heureux de voir ces travaux progresser.
Toutes les routes sont dégagées, les véhicules circulent facilement. Même les piétons passent sans mouiller leurs chaussures. Ça, c'est l'avenue Plateau. Nous l'utilisons déjà. Après 2 à 3 mois, les véhicules pourront y rouler.
Plusieurs chantiers routiers sont en cours autour du marché central et dans plusieurs autres coins de la ville. Mais beaucoup reste à faire, comme l'a souligné le gouverneur Bumba.
Dans le Kassai oriental, avant de passer à la page internationale de cette édition, l'école primaire d'Italala de la 31e communauté presbytérienne construite dans le territoire de Niabi dans le cadre du programme de 145 territoires est menacée de disparition. Une tête de ravin avance et se trouve actuellement à moins de 10 mètres des bâtiments de cette institution scolaire. Le directeur de l'école lance un cri d'alarme au responsable du Beseco. Explication avec Esther Dalafina.
L'école primaire d'Italala de la 31e communauté presbytérienne est construite au quartier central 2 dans la commune rurale de Miabi. Les anciens bâtiments de cette école construits depuis 1975 étaient délabrés et présentaient une menace permanente pour les élèves. Dans le cadre du programme de développement local de 145 territoires, 4 bâtiments non encore inaugurés ont été construits dans l'enceinte de cette école avec l'appui du bureau central de coordination Beseco. Cependant, une tête de ravin avance à pas de tortue et prêt à engloutir cette institution scolaire qui compte actuellement plus de 900 élèves. Martin Lukusaka Lundé, directeur de l'EP d'Italala, lance un cri d'alarme.
Mais 940 élèves vont souffrir. Ils n'auront pas le lieu où nous pouvons les abriter pour dispenser les cours. Nous demandons l'aide de l'État à ce qu'ils interviennent pour arrêter la progression des ravins.
Contacté, le chef d'antenne de Beseko Mbujimayi prévoit de descendre ce lundi à Miabi pour se rendre compte de la situation. Signalons que cette tête de ravin a aussi coupé les quartiers central 1 et 2 de la commune rurale de Miabi. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le gel de l'aide internationale par le président américain Donald Trump continue de provoquer des ondes de choc à travers le continent africain et les organisations éthiopiennes de défense des droits de l'homme s'inquiètent. Le directeur exécutif des organisations éthiopiennes des droits de l'homme et membre des organisations de la société civile éthiopienne affirme que des centaines d'organisations de la société civile et humanitaire seront contraintes de cesser leurs activités vitales en raison de cette mesure. La semaine dernière, le ministère éthiopien de la Santé a annoncé la résiliation du contrat des plus de 5000 agents de santé en raison du gel de 90 jours d'aide financière imposée par l'administration Trump. Autre réaction, ce démantèlement annoncé de l'Agence américaine d'aide au développement préoccupe jusqu'au Vatican. L'Église catholique a exhorté Donald Trump à se souvenir des principes chrétiens d'assistance aux personnes démunies. L'agent d'aide l'Église catholique aux États-Unis, principal bénéficiaire de l'aide américaine, a tiré la sonnette d'alarme.
L'invité.
Comme dit, le coordonnateur national du projet Transforme ses journaux en Mbujimayi au Kassai oriental, Alexis Mangala est invité de ce journal. Il est allé pour rencontrer les autorités afin d'échanger autour des résultats atteints dans le cadre du projet Transforme qui consiste à appuyer l'entrepreneuriat dans les secteurs productifs. Il s'entretient avec Esther Dalafine.
Bonjour, monsieur Alexis Mangala. Vous vous retrouvez aujourd'hui en Mbujimayi, au Kassai oriental. Quel est le but de votre mission?
Merci, madame Esther. Le but de ma mission, c'était d'abord de faire le point, une supervision normale au niveau de l'antenne, de rencontrer l'autorité provinciale, la plus haute autorité de la province, pour lui faire l'état des résultats atteint pour la ville de Mbujimayi à la date d'aujourd'hui et de compter également sur son appui pour qu'il continue à appuyer ce projet qui va combattre le chômage dans la province du Kassai oriental. Et voilà un peu le but de ma mission. Comme ça faisait longtemps, je croyais que c'était important de rencontrer les autorités et de leur faire le point.
Transforme Mbujimayi vient de publier une liste des femmes micro-entrepreneurs. Combien de femmes ont été sélectionnées?
Pour la ville de Mbujimayi, c'est 4706 femmes qui ont été sélectionnées. Et ces 4706 femmes se répartissent suivant les secteurs ci après. Il y a 6559 qui sont dans l'agro-transformation. Il y a 824 qui sont dans l'économie verte. Il y a 1311 qui sont dans l'industrie légère. Et 1012 qui sont dans les services. Donc, tout ce qui est restaurant, cabine informatique et tout ça, voilà. Salle de fête, service traiteur, voilà. Donc, c'est ça.
Je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui évoluent dans les secteurs que vous venez d'énumérer. Mais là, nous voyons sur la liste, il n'y a que plus de 4000. Comment expliquez-vous cela? Y avait-il d'autres critères qu'il fallait remplir?
Oui, effectivement, les 4706 femmes sont des femmes qui ont été sélectionnées après avoir appliqué les critères qui ont été publiés et qui sont connus. Qu'il fallait, premier critère, être dans la ville de Mbujimayi, pas au-delà de la ville de Mbujimayi, suivant la délimitation qui nous avait été communiquée par l'autorité provinciale. Deuxièmement, qu'il fallait évoluer dans les secteurs qui sont éligibles au projet, c'est-à-dire l'agro-transformation, l'économie verte, l'industrie légère, les services, à l'exclusion du commerce général, qui n'apporte aucune valeur ajoutée, du commerce général et de l'agriculture pure. Donc, en appliquant ces critères, donc informel ou informel, ça intéressait peu, mais en appliquant ces critères dont je viens de vous parler, nous sommes arrivés à 4706 femmes qui ont été présentées par les différentes structures d'accompagnement de la ville de Mbujimayi.
Quelle sera la prochaine étape?
La prochaine étape, c'est que ces femmes sélectionnées vont commencer la formation début mars, qu'on appelle la formation à l'initiative personnelle. À la suite de cette formation-là, le cabinet de consultants va les aider à leur montrer comment préparer leur plan d'affaires, c'est-à-dire un plan d'affaires simplifié, plus simplement, disons, un état de besoin. Et sur base de cet état de besoin, ils pourront bénéficier des accompagnements pour réaliser leurs projets, ils pourront bénéficier de cet appui financier, mais un appui en nature. C'est-à-dire qu'on ne donnera pas de l'argent, mais on va acheter l'équipement pour la femme, suivant ses besoins.
Comment se fera donc le suivi ?
Le suivi, oui, il y a un accompagnement qui est prévu. C'est-à-dire, après la formation, le cabinet qui est déjà recruté va reprendre les femmes, les former pour identifier leurs besoins, les accompagner dans la mise en œuvre du projet, les accompagner après l'obtention de cette subvention en nature, les accompagner et les mettre en réseau et créer même des associations. Ils peuvent, donc, il y a un accompagnement après subvention qui est prévu. On ne va pas les laisser.
Et quel est le vrai objectif poursuivi ?
Le vrai objectif poursuivi, c'est quoi ? C'est que ces femmes qui étaient peut-être dans l'entrepreneuriat de subsistance puissent évoluer, être de véritables entrepreneurs, développer leur business, contribuer à chasser, comme je vous l'ai dit tout au début, à chasser le chômage et la pauvreté dans la ville de Mbujimayi. C'est ça l'objectif in fine.
Monsieur Alexis Mangala, je vous remercie.
Merci Madame Esther.
Voilà, ça en est ainsi fini avec cette édition vespérale sur Radio Okapi. Merci de l'avoir écoutée.